faire. Culture Ville, Pascal Paradis.
Musique, théâtre, expo, encore aujourd'hui nous allons valser entre les reportages et les spectacles, mais je ne sais pas si le mot de valser convient tout à fait, car Elisabeth Le Quéré, vous allez nous parler de l'exposition de deux jeunes artistes libanais.
Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, qui exposent en ce moment à la galerie de l'espace Torini à Paris.
Plus classique, Muriel Malouf, vous êtes allée à la Comédie Française pour voir un Molière mais sans ballet, parce qu'on ne présente plus Molière avec ballet ou très rarement.
Un petit peu de danse quand même.
Un petit peu de danse.
De musique.
Et vous avez été voir pas n'importe quel Molière. Hein.
Non, pas n'importe lequel. Le dernier écrit par Molière, Le Malade Imaginaire, et on ne s'en lasse pas. Le public est toujours présent. Et ça affiche complet, de toute façon, plus de 3 siècles plus tard.
Hyper classique aussi, mais dans un autre genre, c'est la reprise de West Side Story. Sophie Torlotin, est-ce que vous pouvez nous le chanter ?
Maria, 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 Maria.
Pas mal. La musique de Leonard Bernstein, toujours la même, reconnaissable, connue de par le monde, mais il n'est plus question du film, puisque West Side Story se joue actuellement au théâtre du Châtelet à Paris, ou alors si c'est un film, c'est en 3D, puisque c'est devenu en fait un musical. Devenu ou redevenu ?
Redevenu, hein, Pascal, puisque avant d'être ce film culte, énorme succès mondial en 1961, West Side Story était bien une comédie musicale, ou plutôt, devrait-on dire, une tragédie. Hein, musical tant l'histoire est sombre, hein, je vous rappelle en deux mots, c'est une sorte de Roméo et Juliette dans les quartiers nord-ouest, Upper West Side, oula j'ai un peu de mal, hein, de Manhattan à New York, où s'affrontent deux bandes rivales, l'une de jeunes blancs d'origine polonaise et l'autre d'immigrés portoricains. Le spectacle, qui comprend évidemment des chants, de la danse, des épisodes joués, a bien été monté à Broadway en 1957 au Livret. Vous le disiez, Leonard Bernstein, et à la chorégraphie mise en scène, Jérôme Robbins à l'époque. Le spectacle a divisé la critique, enflammé le public, enflammé également la communauté hispanique, hein, qui s'offusquait de la présentation de Porto Rico dans le show. Le show affiché complet pendant 734 représentations est devenu un film, et de nouveau, donc, vous le disiez, une comédie musicale qui s'arrête ce soir à Paris.
C'est vrai que c'est osé d'imaginer West Side Story il y a 50 ans parler de la situation des immigrés, des conflits dans les banlieues. La France était loin d'imaginer cette chose-là, et aujourd'hui elle en hérite, oui. et du musical et de la situation parfois. Donc c'est exactement le même spectacle qu'il y a 50 ans, Sophie, puisque je crois que vous avez rencontré le parolier de l'époque.
De l'époque, Arthur Lawrence, tout à fait, qui est venu à Paris saluer les jeunes interprètes de ce show. Et lui, il estime que 50 ans après, effectivement, rien n'a bougé et la magie fonctionne toujours.
It's only the world's greatest love story.
C'est juste la plus belle histoire d'amour du monde, et malheureusement le crime est intemporel. À chaque fois on me demande de quoi ça parle, et bien c'est sur l'amour qui ne peut survivre dans un monde de violence et de ferveur religieuse.
In a world of violence and bigotry. And
bien qu'on ait écrit tout cela il y a longtemps, cela reste vrai. L'amour a bien été tué par la violence et le fanatisme religieux. Et cela continue, et je pense même que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
And I think it's even worse today than it was at the time this was written. It really is an awful world.
C'est vraiment un monde horrible et les gens sont déprimés parce qu'ils ne savent pas quoi y faire. Vous pouvez venir voir West Side Story, la musique est superbe, donc cela peut vous remonter, mais je ne pense pas que le message puisse vraiment vous inciter à danser dans la rue.
Je ne pense pas que le message va vous inciter à danser dans la rue.
Moi, je trouve que ça donne quand même envie de danser,
oui, hein, Sophie. Avec les Portoricains, comme ça, sur America. Justement, celui qui signe la chorégraphie, c'est Joey McNally. Hein, c'est un ancien danseur et un élève pour quelques mois de Jerome Robbins. Il a repris les chorégraphies d'origine.
Vraiment le même secret.
C'est exactement le même spectacle qu'à l'origine. C'est même quasiment peut-être même plus puriste que le film, puisque pour le film de Robert Wise, les chorégraphies avaient quelque peu été changées, évidemment, pour pouvoir passer comme ça à l'écran. Joey McNally respecte donc tout à fait l'esprit de ce spectacle. Il a reçu un peu le cachet de la fondation, l'aval des gardiens du temple de West Side Story. Mais il a quand même tout de même un peu dépoussiéré, modernisé la mise en scène. Et je vous propose de l'écouter, Joey McNally.
What have we done? Not to modernize, but to update.
Ce que l'on a fait, ce n'est pas de moderniser, mais plutôt d'actualiser tout d'abord le plateau. En 1957, ils avaient créé un décor très lourd, mu par des machines. Il fallait au moins 8 changements de décor, donc le public attendait dans le noir que l'action puisse reprendre. On ne peut plus faire ça aujourd'hui, on a envie que ça bouge.
We can't do that anymore. I mean, technology, we can watch things move as automation. So we created a look for New York.
Donc on a créé une atmosphère de New York parce que Manhattan est l'un des personnages du spectacle. Donc il y a ces escaliers d'incendie, ils sont bien en acier et ils sont mobiles. Et quand l'histoire est terminée, les escaliers restent en place, vous comprenez? Et puis on a des projections de photos en fond de scène comme si les personnages s'échappaient d'une photo en noir et blanc. C'est un parfum des années 50 sans en être une réplique.
Of the 50s, but it's not a replica. And I show a lot more skin. You know, there's a lot more leg, a lot of, you know.
Dans les costumes, je montre beaucoup plus la chair parce que les jeunes d'aujourd'hui s'habillent plus sexy, les vêtements collent plus au corps et on voit les muscles des garçons. Les jeunes veulent toujours paraître plus vieux que leur âge. Les éclairages aussi sont travaillés pour électriser le public et pour dynamiser le spectacle parce que c'est ce que les gens attendent. Et puis tout le monde garde le film en mémoire, on a donc des attentes. Même si le spectacle est très différent du film, on a essayé de créer un effet cinématique pour que les gens se disent que c'est issu du film, alors qu'en fait, on est retourné aux sources du spectacle originel.
It's coming from the film, but it's really the original production.
West Side Story, première ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris et jusqu'au 1er janvier, c'est typiquement le spectacle de fin d'année. Hein,
tout à fait, c'est vraiment idéal, un spectacle idéal qui s'échappera après Paris, qui passera par la Suisse, l'Allemagne, puis Londres.
Donc tournée européenne et même internationale puisqu'ils viennent je crois d'Asie.
Ils arrivent d'Asie et puis Broadway, ce sera pour plus tard.
Vous êtes malade.
Comment que si je suis malade? Si je suis malade! Imprudente!
Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait.
Pas de doute, on reconnaît bien là la prose de Molière et la faconde de son malade imaginaire. Alors, Muriel Malouf, la pièce a été écrite en 1673, on la joue toujours, qu'est-ce qu'on dit, formidable?
On rit toujours, d'ailleurs, et on en redemande, bien sûr, formidable. Cette mise en scène de Claude Stratz, d'ailleurs, est assez sobre, complètement fidèle au texte, preuve qu'il n'y a pas besoin de plus d'esprouf, tout est dans la pièce.
Alors, c'est pas en soi une nouveauté, sauf que l'intérêt de ce spectacle, du malade imaginaire, le petit côté comme ça, événement, c'est que cette mise en scène de Claude Stratz, qui est décédé il y a peu de temps, qui était aussi le président, enfin le directeur du conservatoire, qu'est-ce qu'on dit, directeur du conservatoire de Paris, c'est la 7e année de représentation, c'est ça?
Oui, et c'est une chose rarissime à la Comédie Française. On n'a jamais vu encore une pièce qui est rejouée 7 années consécutives. Preuve en est de l'intérêt de cette pièce aujourd'hui, de son actualité.
Alors vous avez assisté, je crois, à la 350e représentation.
Mais oui, vous savez, on le sait toujours,
la Comédie Française.
Il y a un rituel, le jour où on arrive, on a une Bible et on sait exactement à quelle représentation on assiste. Donc, une façon de dire aussi qu'au théâtre, chaque représentation est unique, chaque soirée est différente, n'est-ce pas?
Une façon de dire aussi qu'il y a une continuité comme ça du répertoire de la Comédie Française. Succès incontesté donc pour ce malade imaginaire, joué par Alain Pralon, un sociétaire honoraire que vous avez rencontré dans sa loge, Muriel, après avoir fait après avoir fait les comptes quand même avec le documentaliste du français Alain Hudevol.
Monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque. Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin?
Oui. De quoi te mêles-tu, coquine ? Imprudente que tu es !
Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives.
On est à 2230 représentations depuis 1680, puisqu'on compte à partir de la fondation de la Comédie-Française, et on est à la 241e pour cette mise en scène, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Mais il faut bien penser que le malade ne vient qu'en... Alors je crois que maintenant ça a un petit peu changé, mais que Tartuffe, l'avare, le misanthrope, pour l'instant, ont été plus joués que le malade imaginaire. Mais je crois que le malade talonne le misanthrope depuis cette saison-là.
Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage ?
Ma raison est que me voyant infirme et malade, comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins.
Je crois qu'il y a des raisons internes à son œuvre qui touchent à l'humanité dans sa plus grande, profondeur et en même temps simplicité, ce qu'il dit du rapport au corps et à la maladie, du rapport des rapports amoureux, des rapports d'orgueil dans le bourgeois gentilhomme. Donc tout ça est très important, mais ça tient aussi ici à la Comédie-Française, bien sûr, au culte en quelque sorte que l'on voue à Molière, au fait qu'on fête tous les ans au moment du 15 janvier l'anniversaire de Molière, qu'on conserve des reliques, notamment le fauteuil de Molière. Donc il y a aussi un attachement profond de la troupe et de l'administrateur et de la maison au personnage de Molière, qui je crois est aussi l'homme de théâtre idéal en quelque sorte, parce qu'il est le plus complet, on va dire, parce qu'il est à la fois auteur, il est à la fois comédien, metteur en scène, chef de troupe. En fait, il animait par tous les bouts sa troupe, et chacun d'entre les comédiens d'aujourd'hui peut y voir celui qu'il aimerait être dans l'idéal.
C'est une pièce qui n'a pas du tout vieilli et qui est vraiment à notre époque. Je pense que ça peut plaire aux jeunes.
C'est pas parce qu'il parle comme avant, avec un langage très soutenu et tout, que c'est pas drôle. C'est quand même vivant et tout.
Molière est mort à la troisième représentation, vous savez, pendant la cérémonie finale où il prononce l'euro. Et donc, quand j'ai commencé à le jouer, j'avais passé la troisième représentation, je me suis dit, ah, au moins j'irai plus loin que Molière. Et maintenant, on en est presque à 350, donc, effectivement, maintenant, je laisse le temps s'écouler, mais avec beaucoup de plaisir, puisque je ne m'en lasse pas de jouer ce rôle.
Même si parfois il y a des mots qu'on ne comprend pas parce que c'est pas l'époque où on vit maintenant et qu'il y a des moments où il y a des mots compliqués, ça nous amuse quand même.
On reviendra.
Oui.
Je suis sûr qu'on y reviendra.
Ça parle de la maladie. Ça parle des rapports avec les enfants, les parents avec les enfants. Ça parle de l'argent. Ça parle de, bien sûr, de la médecine. Or, effectivement, même s'il y a encore quelques médecins qui viennent me voir et qui me disent non, mais quand même. La médecine a changé depuis ce temps-là. C'est vrai. Mais s'ils éprouvent le besoin de poser la question, c'est que quand même, il y a des choses qui résonnent. Or, en fait, ce qui fait toujours la modernité, en tout cas, de cette mise en scène, c'est la façon dont on a travaillé. C'est-à-dire qu'on peut la monter plus noire que celle-là. On peut la monter comme une veillée funèbre. On peut la monter comme une bouffonnerie. On peut la monter comme une farce. Ce qu'on a travaillé, c'est sur le concret et essayer de faire écouter le texte. Or, si on écoute bien le texte, effectivement, il y a des gens qui viennent et qui vous disent maintenant, non mais attendez, vous avez adapté là, il y a des choses que vous avez modernisées, que vous avez changées. Or, on n'a pas changé un seul mot.
Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté.
Alain Pralon, donc, dans le Malade imaginaire de Molière à la Comédie-Française. Mais Muriel, il faut donner un coup de chapeau à l'ensemble de la troupe et des comédiens de ce spectacle, parce que la Comédie-Française, c'est d'abord une troupe.
Absolument. D'ailleurs, si Alain Pralon est le seul qui revient chaque année depuis 7 ans dans ce Malade imaginaire, chaque année, il y a un changement de distribution, des comédiens différents jouent les rôles. Et cette année, j'aimerais parler un petit peu de Cécile Brune, qui est une comédienne qui évolue
vue d'une manière assez incroyable et qui est explosive dans le rôle de Toinette, la servante, un personnage très nature, traditionnellement, chez Molière, qui ne mâche pas ses mots, qui dit les choses sans détour, qui crée de la gêne, de surcroît, hein, bien évidemment. Donc Cécile Brune, une comédienne admirable, d'une présence vraiment étonnante.
Donc Le Malade Imaginaire pour Alain Pralon et pour Cécile Brune, c'est jusqu'au 26 décembre. Où sommes-nous ? Au Liban, avec deux artistes plasticiens qui exposent à Paris dans le cadre du Festival d'automne, photo, vidéo, cinéma. Johanna Djitoma et Khalil Jorej posent des questions, dont celle-là. Où sommes-nous ? Et c'est une vaste question, Elisabeth Lequéré, pour le moins.
C'est une vaste question. C'est également une question très personnelle. Parce qu'en fait, il faudrait pour cela faire un petit voyage dans le temps et revenir au printemps 2006. Le printemps 2006, c'est le moment où Johanna Djitoma et Khalil Jorej sortent leur premier long métrage de fiction, ça s'appelle Perfect Day, un jour parfait, et là acclamation critique, tout le monde les présente comme les deux jeunes cinéastes libanais prometteurs, et ils ont énormément de projets, de nouveaux films, d'expositions, et puis tout à coup, juillet 2006, la guerre éclate. Mmh. Voilà. Et donc ça va remettre évidemment beaucoup de choses en question, notamment le fait que eux qui vivent à Paris vont voir toute leur famille qui est restée au Liban et vivre cette guerre par procuration, c'est-à-dire par téléphone portable, par les médias, la télévision, les journaux, etc. Donc effectivement, on comprend qu'il y a de quoi se poser la question « Où sommes-nous ?». Ensuite, eux qui veulent faire des fictions sur le Liban contemporain, c'est-à-dire un pays qui est hanté par la guerre, mais qui aussi vit dans les boîtes de nuit, qui s'éclate dans la boisson, dans la drogue éventuellement, etc., tout à coup sont rattrapés par l'ici et maintenant de la guerre.
Donc finalement, c'est un travail qui parle de la guerre.
C'est un travail
qui... plus largement de l'histoire, de la géographie, de la mémoire, de la distance.
Disons que tout leur travail parle de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire qu'on se crée, la mémoire qu'on se fantasme, la mémoire refoulée. Donc ce travail qui s'appelle « Où sommes-nous » part évidemment de ce principe. Et moi, il y a une installation que j'ai beaucoup aimée dans le film, donc je peux vous la décrire. Donc vous, Pascal, vous arrivez, vous vous installez sur un canapé.
Dans le film, dans l'exposition, vous voulez dire ?
Oui, dans l'exposition, en fait. C'est un lapsus, parce qu'en fait, c'est une installation avec deux films. Donc vous êtes assis sur un canapé et vous avez deux films différents qui sont en face de vous. Alors, le film de gauche, en fait, c'est un film que Johanna Djitoma et Khalil Jorej avaient fait en 1999. Ça s'appelle Riyam. Riyam, c'est un camp qui était dans le sud Liban. Et alors, la spécificité de ce travail, c'est qu'à l'époque où ils font le film, ils n'ont pas accès au camp, puisque le sud Liban est encore occupé par l'armée israélienne. Donc, ils vont aller chercher des anciens prisonniers et leur demander de témoigner sur leur vie quotidienne dans ce camp.
Donc c'est un film documentaire, un film de témoignage essentiellement.
Ah, absolument, c'est un film documentaire. Et alors, la spécificité du travail de ces deux jeunes plasticiens, c'est qu'ils reviennent toujours sur les lieux du crime, enfin moi ce que j'appelle les lieux du crime, c'est-à-dire ils considèrent qu'un travail est toujours un work in progress et que ça n'est jamais terminé. Donc, 8 ans après Riyam, première partie, ils vont tourner un deuxième film. Donc vous êtes assis et vous voyez les deux films différents, tournés à 8 années d'intervalle, qui défilent sous vos yeux. Donc, Riyam, deuxième partie, ce sont les mêmes prisonniers, le même dispositif, on leur pose les mêmes questions, mais les réponses vont être complètement différentes.
D'où le travail sur la mémoire, parce qu'on peut, j'imagine, sentir et entendre le travail de déformation, de reformation de la mémoire.
Exactement. Et c'est très peu politiquement correct, parce que ces prisonniers... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Riyam, quand le Sud-Liban a été libéré, est devenu une sorte de musée, en fait, et que ce musée a été détruit pendant la guerre de juillet 2006. Et donc, en fait, tout ce que ces prisonniers vont dire va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que eux parlent de leur douleur et de leur immense colère à l'idée que ce lieu qu'ils ont habité, puisque c'était quand même leur prison, donc ils ont passé de nombreuses années, à l'idée que ce lieu a été rendu au public et qu'il y a des graffitis partout.
Où sommes-nous donc? C'est l'exposition de Johanna Hadjithomas et de Khalil Jorej à l'espace topographique de l'art jusqu'au 9 décembre. C'est à Paris, rue Torigny, dans le quartier du Marais. Merci à vous tous. Culture Vive avec Florence Pons, réalisation Nicolas Spiguet, Christophe Loisel à la technique. Le metteur en scène de théâtre Luc Bondy sera notre invité pour une mise en scène de la seconde surprise de l'amour de Marivaux. Ce sera demain. Bien à vous. À demain.